L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Bertrand Cormier, prêtre du diocèse de Cahors.
De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? Ils lui dirent, nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres, les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. » Pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Maître, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Pour nous, Jacques et Jean ne sont pas dans le don, mais dans le besoin. Ils ont besoin de répondre à cette soif de pouvoir et de gloire qu'ils ont, que nous avons tous. Et puis eux, que donnent-ils à Jésus ? Jésus les fait mariner un peu. Ils préfèrent qu'ils fassent eux-mêmes leurs demandes alors qu'ils savent très bien ce qu'ils vont demander. Sans doute pour les responsabiliser et les aider ainsi à prendre conscience plus tard de l'énormité de leur requête. Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Dans ta gloire. Les deux disciples ont une vision de Jésus très loin de ce que Jésus essaie de leur témoigner, certes. Jésus parle de gloire, de sa gloire, mais si on y regarde bien, on voit qu'il la met toujours en lien avec sa passion. Jacques et Jean ne le voient pas. Ils ne voient la gloire que comme une récompense accordée par le glorieux, par Jésus en l'occurrence, et son Père. Ils voient donc comme impuissant ce Jésus, leur maître, qui donne des places comme on délivre des billets à des very important personnes, des VIP. On connaît tout le chemin qu'ils vont devoir faire pour vivre la parole de leur maître. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes très loin de la gloire qu'ils imaginent, de la puissance, du pouvoir, de l'autorité exercée sur d'autres en plus. Jésus, lui, voit plutôt la gloire comme une victoire, et qui dit victoire dit combat. Ainsi donc, et nous le savons, la vie est un combat, comme disait Mère Teresa, mène-le. Voyons tout le combat que Jésus va devoir mener pour que son message passe dans quelques cœurs de quelques personnes, et qu'il continue de passer encore aujourd'hui. Ce combat que l'Église mène en ce moment avec notre pape qui nous invite à réfléchir sur le pouvoir et sur le pouvoir notamment dans l'Église, sur le pouvoir que certaines personnes dans l'Église, notamment des prêtres bien sûr, exercent sur d'autres, notamment des enfants ou des adolescents. Et nous savons ce que cela signifie dans l'horreur. Nous voyons jusqu'où peut aller l'humain, même s'il est prêtre, même s'il a une foi importante. Alors, nous devinons tout l'enjeu qu'il y a pour Jésus, car il voit le fond des cœurs. Et il sait que Jacques et Jean iront jusqu'à la passion, leur propre passion. Il sait qu'ils répondront à son appel. Alors, il ne les blâme pas, il ne les gronde pas.
Mais il leur dit quand même, vous ne savez pas ce que vous demandez, comment peuvent-ils le savoir, tellement ils sont aveuglés par leur soif de pouvoir. Nous n'avons qu'à le voir aussi chez des chefs d'État, de gouvernement, qui agissent comme des dictateurs. On parle même de démocrature, une fausse démocratie qui camoufle une vraie dictature dans certains pays. Eh bien, cette soif de pouvoir fait que l'homme qui est au pouvoir ne voit plus rien, totalement aveuglé. Il est esclave de ce pouvoir. Il répond juste à sa soif de pouvoir. Tout ce qu'il fait et dit répond à une logique de pouvoir, de puissance, exercée sur d'autres, notamment des plus faibles, qui acceptent ou qui n'ont pas le choix d'accepter d'être soumis à ce pouvoir qui les écrase et les empêche d'être et de vivre comme des personnes libres et responsables de leur propre vie. En cette période particulière de l'histoire de l'Église universelle, où le pape nous invite à remettre en question le pouvoir dans l'Église, cette remarque de Jésus, « Vous ne savez pas ce que vous demandez », vient à point nommé. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? C'est la coupe à la fois du dernier repas et de l'agonie. Mais dans l'Ancien Testament, c'est peut-être aussi la coupe de la colère divine. Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé, dit Jésus. On imagine moins le baptême sous cet aspect. Il est pourtant signe de la Pâque, puisqu'on met le cierge pascal au baptême. Le terme baptême signifie en effet plonger, certes dans l'eau, mais la parole de saint Paul nous éclaire. Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Pouvons nous interroger sur la vision que nous avons de notre propre baptême et donc de notre vie en Christ et en Église. Le baptême est la source de tous les sacrements. Pas de baptême, pas d'autres sacrements. Alors il répond, nous le pouvons. Pierre dira la même chose au moment de son reniement. Quand Jésus annoncera qu'il va le renier, Pierre dira qu'il est capable et tous les autres avec lui en cœur, car ils pensaient qu'ils le pouvaient avec leur propre force. Or, non, ils découvriront qu'ils ne le pourront qu'avec la force du Christ dans sa passion, là où Jésus est le plus faible, le plus vulnérable. Alors Jésus leur annonce leur propre passion. Vous boirez cette coupe et vous serez plongés dans ce baptême. En effet, ils seront présents au Tabor, mais aussi au jardin de Gethsémani. En quelque sorte, le Seigneur a répondu à leur demande, mais pas de la façon dont ils l'avaient imaginé, évidemment. La gloire, ils l'ont, puisqu'ils sont désormais apôtres, mais au prix de leur propre Pâque. Et nous aussi, nous sommes tous invités à vivre notre Pâque. La mort de tout ce qui en nous est puissance, des besoins de pouvoir à exercer sur d'autres. Quant à siéger à ma droite, ce n'est pas à moi de l'accorder, non pas qu'il n'ait pas le pouvoir, mais Jésus le remet entre les mains de son Père. Les 10 autres s'indignent, mais ils oublient qu'eux-mêmes vont discuter plusieurs fois dans l'Évangile pour savoir qui est le plus grand, le plus proche de Jésus, comme des gamins dans une cour d'école. Terminons par le plus important, me semble-t-il, à la fin, celui qui va être le premier sera l'esclave de tous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ou votre esclave. En grec, le mot désigne à la fois serviteur et esclave. Sans doute parce que certains esclaves étaient affranchis à l'époque, et que même certains autres, sans être affranchis, devenaient chrétiens, et alors étaient frères des autres chrétiens qui n'étaient pas esclaves, qui peut-être même étaient souvent leur maître, leur propre maître, car lorsque le maître était baptisé, on le verra dans les Actes des Apôtres au chapitre 10 avec Corneille, eh bien, toute la maison était baptisée, notamment les esclaves. Et puis il y a tous, serviteurs de tous, l'esclave de tous, non pas seulement esclave serviteur d'un maître humain, terrestre, mais du maître qui lui a donné sa vie pour la multitude. Et en grec, le terme signifie innombrable. Et enfin, la dernière verset, donner sa vie en rançon pour la multitude. Cette rançon, le terme est sans équivoque, mais pas son interprétation. Il semblerait qu'il s'agisse d'une vision de l'Ancien Testament où on achetait facilement des esclaves comme des biens. Et puis il y a la libération d'Égypte où le peuple était esclave. En péchant, les humains sont devenus esclaves de leur propre péché. Jésus, en étant identifié au péché sur la croix, et nous sommes dans un contexte de passion du Christ dans ce texte, Jésus nous a rachetés dans un échange admirable, à lui notre péché, à nous sa rédemption. Et les disciples dont nous faisons partie par notre baptême sont invités à participer à un tel rachat. Souvenons-nous du Notre Père, remets-nous nos dettes dans la version de Saint-Luc, pardonne-nous nos offenses dans la version de Saint-Matthieu.